Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons partir dans le ciel avec les planètes. C'est Jacques Chancès qui va nous amener faire ce beau voyage. Bonjour.
Bonjour. Bonjour à tous.
Parlez-nous de ce ciel. Aujourd'hui, enfin, nous avons du soleil.
Ah. Oui, voilà. C'est vrai que depuis le début de l'année, nous ne sommes pas trop protégés par l'apparition du soleil. Et c'est vrai que là, actuellement, aujourd'hui, il a l'air de se présenter. Et donc, effectivement, pour nous, hier soir, c'était déjà magnifique au niveau de l'observation. Et ce soir, je pense que ce sera pas mal aussi. Voilà, les beaux jours semblent arriver dans notre ciel. Nos belles campagnes du Volvestre, donc ce serait quand même bien. D'autant plus pour nous, pour observer le ciel, c'est vrai que actuellement, il y a des choses à voir dans le ciel, c'est sûr. Il y a beaucoup de planètes, essentiellement Vénus, celle que l'on appelle donc l'étoile du berger, que l'on peut observer dès le coucher du soleil. On la voit même un petit, des fois en plein jour.
Ah oui ?
Oui, de la journée en fait, là dans le ciel bleu qu'il y a autour de nous. Hein. Si on savait exactement où regarder, on pourrait voir la planète Vénus de jour.
D'accord. D'où lui vient le nom de étoile du berger ?
Alors, l'étoile du berger, disons, ce nom proviendrait de que les bergers utilisaient, en fait, sans savoir ce que c'était, mais ce point lumineux, quand il apparaît dans le ciel, il est toujours proche du soleil et il annonce soit l'arrivée de la nuit, actuellement donc, soit lorsqu'il est visible le matin, l'arrivée du jour. Donc, en fait, les bergers se guidaient sur l'apparition de cet astre, en fait, lumineux, parce que Vénus, c'est ce qui brille le plus dans le ciel après le soleil et la lune. Mmh. C'est donc elle qui devait servir, on pense, de repère dans le ciel pour les bergers qui commandaient les troupeaux grâce à cette planète. L'appellation du coup de Vénus comme étoile du berger porte très mal son nom, quoi, parce que c'est pas une étoile, c'est donc bien une planète.
Oui. Et voilà. Oui, c'est vrai.
Oui, oui.
Mais merci de ce petit renseignement. Qu'est-ce qu'on peut voir encore ?
Dans le ciel, nous avons Vénus juste au-dessus de l'endroit où vient de se coucher le soleil, vers l'ouest. Et si vous portez votre regard un peu plus vers l'est, vous y trouverez un point qui brille presque autant qu'elle, c'est Jupiter. Donc Jupiter, c'est la plus grosse planète du système solaire. C'est peut-être la planète que l'on observe le plus dans notre télescope, dans nos instruments, quoi. C'est vrai que on la voit assez facilement. Elle n'est pas très loin de nous. On y voit Jupiter. Donc c'est une grosse. Alors pour faire court, en fait, c'est la plus grosse planète du système solaire. Elle est composée de gaz essentiellement. Oui. On y voit tous ces mouvements atmosphériques de la haute atmosphère de Jupiter. Au travers d'un télescope, on voit déjà les couleurs de cette planète-là. Donc on la voit également tourner, puisqu'elle tourne très vite sur elle-même. Elle met à peu près 10 heures pour tourner. Elle est à peu près 10 fois la Terre.
Ouh, ça doit décoiffer.
Ça décoiffe un peu. Il doit y avoir des vents à peu près à 500 km à l'heure, je crois, donc à la surface de Jupiter. Ça brasse un peu les hautes couches atmosphériques. Et nous, nous voyons en fait des dessins de nuages et de gaz donc, sur ce disque de Jupiter. Mmh. Et si on l'observe assez longtemps, eh bien, on voit bien qu'elle tourne, ça c'est sûr. Et puis, ce que l'on voit aussi facilement, ce sont ces lunes qui sont à côté, ces quatre principaux satellites qui s'appellent donc Io, le plus près, Europe, Ganymède et Callisto, qui ont été observés pour la première fois par Galilée. Quand il a vu cette petite lune qui tournait autour de Jupiter, eh bien nous, on peut voir aussi les balais de ces satellites, le déplacement, en fait, en quelques heures, même un quart d'heure, de ces satellites-là. Voilà, donc dans le ciel, effectivement, on a Vénus, Jupiter, et pour les couches tard, un petit peu en ce moment, si on traîne vers 1h du matin, eh bien on verra se lever la planète Saturne, dans la constellation du Sagittaire, voilà, près de la Voie lactée, que l'on verra donc plus tôt pendant les mois de juillet et août. Elle se lèvera beaucoup plus tôt que maintenant. Mais bon, ça ne nous empêche pas de l'observer vers minuit, 1h du matin. Quoi, voilà.
Vous venez de dire que Jupiter, c'était une énorme planète gazeuse.
Oui.
Est-ce qu'elle a un noyau dur ?
Oui.
Est-ce que peut-être il serait pensable qu'on pourrait l'habiter ?
Alors, habiter sur Jupiter, ça va être très difficile parce qu'il faudrait que des ailes, et puis des ailes nous poussent, hein, parce qu'on ne peut pas marcher, bien sûr, sur du nuage, quoi. Donc sur la haute atmosphère de Jupiter. Pas sur Jupiter, mais peut-être ces satellites, effectivement, intéressent de plus en plus les scientifiques. Ils sont intacts, ils sont solides, donc déjà. On n'a jamais posé une sonde dessus, mais on le connaît relativement bien. On a encore beaucoup à apprendre d'eux. Et on pense que sur certains, notamment Europe, peut-être... sous la couche de glace de ce satellite-là, il pourrait y avoir de la vie, en fait, qui apparaît. Ça, c'est sur les satellites. Par contre, pour revenir à Jupiter, elle fait à peu près 10 fois la taille de la Terre. C'est du gaz, comme je vous l'ai dit. Et plus on va à l'intérieur de Jupiter, du coup, le gaz se densifie, devient un petit peu plus liquide et solide, donc des matériaux solides qui seraient dans le noyau. Ce corps solide, donc, c'est lui, du coup, ce noyau, qui a suffisamment d'attraction et de gravité pour retenir le gaz autour de cette planète-là. Mmh. On a envoyé, il y a beaucoup de missions spatiales qui se sont intéressées, qui ont tourné autour de Jupiter et qui tourneront encore pour bien étudier cette planète-là. Parce que dans la composition de l'atmosphère de Jupiter, en fait, on y décèle la naissance du système solaire. Donc tout le gaz, en fait, tout le gaz qui entoure ces planètes gazeuses, comme Jupiter et les autres, hein, eh bien c'est ce gaz qui s'est solidifié près du Soleil et qui a formé les planètes telluriques solides, comme la Terre, et qui est resté à l'état gazeux, comme Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, donc beaucoup plus loin du Soleil.
Et elles sont donc gazeuses parce que peut-être loin du Soleil.
C'est ça. C'est le Soleil, disons, à la formation du système solaire. Alors, il y a 4,5 milliards d'années. Au début, il n'y avait que des ingrédients pour former, en fait, les planètes. Du gaz, essentiellement, et des poussières stellaires. Et donc, les planètes solides se sont formées près du Soleil parce que le Soleil attire à lui les molécules et les atomes qui sont plutôt lourds, comme le fer, les carbones, les silicates. Et beaucoup plus loin du Soleil, en fait, eh bien, l'attraction du Soleil n'a pas réussi à attirer suffisamment de matière. Et donc, le gaz, qui est beaucoup plus difficile à attirer, est resté à l'état de sphère, réuni par la gravité, en fait, d'un noyau solide, métallique.
C'est très intéressant. Il y a d'autres planètes ou d'autres étoiles à voir ?
J'ai parlé de Saturne, je crois, donc pour les couches tard. Et après, au niveau des étoiles, alors les constellations, effectivement, de l'été pointent le bout de leur nez, on va dire. Là, il serait peut-être intéressant, après, d'avoir une carte du ciel.
Oui.
Une carte du ciel que l'on peut trouver soit sur Internet, soit sur un logiciel d'astronomie. On peut en fabriquer une en papier. C'est vrai que c'est le compagnon idéal pour observer le ciel. Parce qu'on sait que Jupiter est dans la constellation de la Balance, par exemple. Donc, effectivement, il faut que je trouve un peu la constellation de la Balance pour voir Jupiter. Saturne, elle est dans la constellation du Sagittaire. Donc, effectivement, il me faut savoir où est à peu près la constellation, où se trouve la constellation du Sagittaire pour pouvoir voir Saturne. Mmh. En fait, les constellations... quand je les connais, ben, elles nous servent de guide. C'est comme une carte routière pour aller d'un point à un autre, pour découvrir un bon restaurant ou un bon site pour y faire d'attraction quelconque.
Oui.
Hein.
Oui.
Eh bien, je vais prendre ma carte et regarder. Donc, dans le ciel, c'est pareil. Je suis les étoiles et d'étoile en étoile, j'arrive à trouver en fait ce qui m'intéresse. Alors, il n'y a pas que les planètes. Il y a bien sûr beaucoup de choses à voir, hein, des nébuleuses, des galaxies. Ça, c'est le ciel profond, comme on dit, les nébuleuses et les galaxies sont plutôt réservés aux personnes qui possèdent un instrument d'observation.
Justement, vous parlez du balcon des étoiles. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ?
Alors, nous, le balcon des étoiles, en ce moment, on reçoit beaucoup de groupes scolaires essentiellement, c'est vrai. Donc voilà, l'accueil se fait en plusieurs jours. Et donc, parce que les jeunes, du coup, sont sensibles à l'astronomie. Dès les enseignants, on en parle un peu plus dans les écoles. Puis on voit toutes ces missions spatiales, on écoute à la télé. Donc ça éveille un peu essentiellement les enfants, c'est vrai, qui sont les premiers intéressés. Les adultes ont beaucoup plus de soucis, on va dire, s'intéressent, mais par le biais, effectivement, des jeunes. Qui, eux, sont là et posent les questions, des questions essentielles du monde qui nous entoure.
Un exemple, peut-être ?
Ah ben, c'est à quoi sert la Lune ? À quoi sert le Soleil ? Ce sont des questions, à quoi ça sert, les enfants, en fait, ont des questions auxquelles on n'a pas toujours la réponse.
Et oui, et c'est difficile.
Que les adultes auront peut-être un peu plus de mal à poser, bon, parce qu'on est, un peu sur la retenue, on est... Mais ah ben du coup, c'est plus intéressant d'avoir des questions comme ça, parce qu'à quoi sert la Lune ? Là, on est obligé de dire que, ma foi, elle nous accompagne depuis des milliards d'années, et qu'on fait avec, et puis on regarde, et la Lune, c'est ce qu'il y a de plus, c'est notre compagne, hein, elle est là, qu'on fait avec, et on utilise en fait tout ce qui est dans le ciel, on essaye de comprendre, on essaye de les observer, de les comprendre, et notre vie, effectivement... Et j'allais pas dire sous l'influence parce que ça me ferait dériver vers autre chose, mais nous sommes entourés de ce ciel-là et donc qu'on se pose des questions, c'est tout à fait légitime.
Mm-hmm. Moi, j'ai envie de vous poser une question justement qui peut-être viendrait à un enfant, même si je suis une adulte. Comment font les planètes pour tenir comme ça, dans le vide?
Oui.
Planète étoile, parce que tout y est.
Oui, enfin, les étoiles donc, sont déjà beaucoup plus loin. Hein. Pour nous, pour les planètes, eh bien, le Soleil, qui est l'étoile la plus proche de nous, est au centre du système solaire. Et à lui seul, en fait, il pourrait contenir toutes les planètes qu'il y a autour de lui. Mm-hmm. Donc, on voit que c'est une masse de plasma, du gaz qui brûle en fusion énorme. Et donc, forcément, toute cette matière qui compose le Soleil développe la plus forte gravité, l'attraction autour de lui. Et l'attraction solaire commence à Mercure et finit bien au-delà de Pluton. Donc, on ne sait pas encore où s'arrête l'attraction du Soleil. Les confins du système solaire sont encore à définir, j'imagine. Toutes les planètes sont retenues par l'attraction du Soleil, tournent autour, suivant des ellipses. Et la Terre en fait le tour en 365 jours et 6 heures. Et tout ça, ça nous amène à expliquer qu'effectivement, le Soleil, les planètes tournent autour. Plus elles sont éloignées, plus elles mettent de temps à tourner autour du Soleil.
Oui.
Mais c'est bien le Soleil qui est l'attracteur principal dans le système solaire et qui attire tout à lui.
Oui.
Et c'est la vitesse qui nous permet, en fait, de garder des orbites circulaires, pratiquement circulaires.
Oui.
Si on n'avait pas de vitesse...
On serait aspiré par lui.
Voilà.
D'accord.
Donc, tout dans le ciel, en fait, tout est en mouvement.
Mm-hmm.
Il n'y a rien d'immobile. Tout bouge.
Oui.
Parce que si ça ne bouge pas, ça ne peut pas marcher.
Oui.
Donc,
je comprends.
Et ça se régule depuis 4 milliards et demi d'années, on va dire.
Oui.
Ça marche
c'est
bien.
Le système a bien été inventé.
Il a bien été mis en place, c'est sûr. Oui. Et donc là, ça marche bien.
Allez, revenons au balcon des étoiles. Les animations pour les enfants qui sont très curieux, vous me disiez.
Voilà, alors les animations des enfants donc, vont se poursuivre jusqu'à la fin de l'année scolaire, hein, jusqu'au début juillet, je crois.
Oui.
Mais parallèlement à ça, nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de faire venir des familles et des groupes.
Mm-hmm.
Donc pour ça, ben, nous proposons des activités. Alors, des conférences pour découvrir, pour apprendre un petit peu, par exemple... l'exobiologie, donc j'ai monsieur Jérémy Saulnier donc qui est biologiste, qui vient nous parler d'exobiologie, c'est-à-dire la vie ailleurs. On sait que la vie donc sur Terre a pu se développer grâce à la distance de la Terre par rapport au Soleil, à sa température, à son atmosphère, à tout ce qui protège en fait le champ magnétique, qui ont fait que la Terre en fait est apparemment, dans le système solaire, la seule planète sur laquelle la vie a pu se développer, de la vie végétale jusqu'à la vie humaine, comme on la connaît actuellement. D'autres, donc, comme je parlais des satellites de Jupiter, peuvent effectivement avoir des formes de vie, mais il faudra faire des études. Mars intéresse les hommes, forcément. Mars, on pense que la vie a été sur Mars, elle a existé. Et là, on voit qu'il faut encore beaucoup, faudra encore beaucoup de missions sur cette planète-là pour montrer qu'effectivement, l'eau existe réellement sous le sol de Mars et qu'à une certaine époque, il y a eu peut-être de l'eau à la surface de Mars et donc probablement des embryons de vie qui ont pu exister sur cette planète.
Oui.
Il y a beaucoup de choses. Et M. Saulnier nous parlera de ça, donc de la vie telle qu'elle peut apparaître comme elle est apparue sur Terre et comme elle pourrait apparaître aussi dans le système solaire, mais aussi... peut-être beaucoup plus loin, près d'autres étoiles. Quoi.
Mm-hmm. Oui.
Donc ça, c'est le vendredi 15 juin à 21h.
Oui.
Le 16 et le 17 juin, sur ce thème-là et sur le thème de la planète Jupiter, nous proposons un week-end entier sous les étoiles. Ce sont des week-ends d'escapade où les gens peuvent venir nous trouver donc, dès le samedi. On les garde jusqu'au dimanche, en fin d'après-midi, au balcon des étoiles, où là, on fera des balades autour du village, dans le système solaire, des observations du ciel, des observations du soleil, des séances de planétarium, bref, de quoi occuper toute la famille pendant le week-end. Quoi,
oui, voilà. Oui.
C'est le 16 et le 17 juin. Après, le 23 juin, nous avons une soirée spéciale sur Saturne. Parce que Saturne, c'est la planète peut-être qui fait le plus rêver. Parce que c'est vrai que quand on a observé avec nos instruments la Lune, qu'on y voit déjà énormément de choses, des cratères et tout, nos instruments, en règle générale, quand on a un instrument, on le dirige toujours sur Saturne pour voir si les anneaux que j'ai tant vus sur Internet ou dans les livres, je peux les voir de moi-même. Mm-hmm. Et donc, du coup, on s'aperçoit qu'avec un petit instrument d'astronomie, on peut voir les anneaux de Saturne. Et donc ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose de magique quand on les a vus. Alors nous avons décidé d'organiser une soirée spéciale donc, sur cette planète-là. Ce sera le samedi 23 juin.
Et là, c'est à 20h.
Et là, c'est à 20h parce qu'il y a tellement à dire sur Saturne.
Oui.
En fait, c'est pas là où la nuit se couche le plus tôt, hein, parce qu'il va falloir attendre un peu aux alentours de 22h30 mm-hmm. pour pouvoir observer avec nos propres yeux et nos propres télescopes Saturne. Mais on en parlera un peu, c'est vrai, puisqu'il y a des quiz autour de Saturne. Et il y a un collègue qui va parler des missions Cassini. Voilà, tout ça nous amènera rapidement à l'heure à laquelle on peut observer cette planète-là.
Oui.
Et le 29 juin, c'est un vendredi, c'est Madame Béatrice Sandré qui vient nous parler un peu plus alors, de cosmologie, des choses qui nous sont peut-être un peu plus difficiles à comprendre. C'est le ciel, c'est un modèle de perfection et d'éternité, comme elle nous le dit.
Oui.
Et on en saura mieux sur la cosmologie, donc l'histoire de l'univers.
Mmh.
Ça s'étend un peu plus à des personnes, on va dire, enfin à tout le monde du coup, mais après on observera bien sûr des galaxies, d'autres galaxies et d'autres amas d'étoiles. Et elle, donc c'est plutôt l'aspect astrophysique un petit peu, tout ce que les astrophysiciens savent jusqu'à
oui.
maintenant, parce qu'ils savent des choses.
Oui.
Elle viendra donc nous l'expliquer ce vendredi 29 juin à 21h à l'observatoire.
Bien, alors le site c'est les-pléiades.asso.fr.
C'est ça.
Mais si on fait les Pléiades, il n'y a pas de souci, on vient dans le site.
C'est très bien.
Ça, c'est sûr. Le prix d'entrée pour venir à une conférence?
Les conférences sont gratuites. Le vendredi, c'est gratuit. En fait, il y a le week-end, bien sûr. Lui, il ne peut pas être gratuit puisque forcément, on accueille les gens. Il y a les soirées, il y a les repas, il y a tout ce qui va avec. Donc là, mais les conférences, le vendredi, c'est gratuit. Et le samedi, ce sera probablement une entrée. Le samedi, pour la soirée spéciale Saturne, autour de 5€ par personne.
Ça va.
Et gratuit pour les enfants. C'est les adultes qui paieront 5€ pour oui. participer un petit peu à la mise en place de tout ça. C'est vrai que bon. Et le vendredi, donc 29 juin, c'était aussi gratuit, bien entendu.
Mm-hmm. Le balcon des étoiles, c'est à la trappe. Et on peut, bien sûr, vous joindre facilement. On a tous les renseignements sur le site qui, je le redis, c'est les Pléiades. On y tombe dessus. Sinon, c'est les-pléiades.asso.fr. Mais voilà, Jacques Sanchez, merci de tous ces renseignements, c'est vraiment passionnant.
C'est moi qui vous remercie.
À bientôt.
Au revoir, à bientôt.